19h, temps universel.
Washington, la voix de l'Amérique.
Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Bonsoir à tous, Jean-Roger Billon à ce micro. 11 300 000 sans-papiers vivent aux États-Unis. 5 millions parmi eux doivent bénéficier du décret Obama signé il y a 2 mois.
L'une des principales conditions, c'est d'avoir vécu aux États-Unis pendant au moins 5 ans, d'avoir des enfants qui sont nés aux États-Unis ou qui sont des résidents permanents, d'avoir un casier judiciaire vierge, excusez-moi, c'est-à-dire ne pas avoir commis de crimes ou condamné pour des crimes.
Jérôme Gando, avocat, on évoquera avec lui la problématique de l'immigration aux États-Unis tout à l'heure dans AFV. Vœux à Afrique, tout d'abord l'actualité. Violente manifestation aujourd'hui à Zindé, c'est au Niger, après la prière du vendredi en réaction à la caricature du prophète Mohamed parue en une du dernier numéro de Charlie Hebdo. Au sorti des mosquées, des centaines de musulmans se sont pris à des édifices publics, des églises et des débits de boissons. Timothée Donangmaï a joint sur place notre confrère Amadou Mahmadou.
On dénombre 4 morts, dont un gendarme qui, un véhicule devant la foule, le véhicule de la gendarmerie faisait marche arrière. Et Mathieu, celui, il est mort, il serait à l'hôpital. 3 autres par balle, en tout cas selon les informations hospitalières, ou en tout cas, mais jusqu'à présent, on attend la confirmation officielle. Bon, les corps ont été vus, mais du côté des autorités, on n'a pas encore confirmé. On parle de 4 morts, 3 blessés, dont un infirmier dont la main a été coupée en manipulant une grenade.
Notre confrère Amadou, joint à Zindé au Niger. Au Mali, la ville de Tekneku, dans la région de Mopti, s'est réveillée ce matin par des tirs de groupes armés non identifiés, faisant 4 morts et 5 blessés. Les assaillants ont pu s'enfuir à bord d'un véhicule et sur des motos. Annoncée cette semaine, l'aide militaire tchadienne au Cameroun se concrétise ce vendredi. Des chars ont quitté N'Djamena en direction de la frontière camerounaise pour combattre Boko Haram. À noter que Boko Haram a enlevé plusieurs centaines de femmes et d'enfants lors de la récente attaque à Baga dans le nord-est du Nigeria. Des témoins cités par l'AFP et Amnesty International parlent de centaines de femmes captives avec leurs enfants. Boko Haram aurait libéré les femmes âgées et les mères, mais les jeunes filles seraient toujours otages. Dominique Ongwen, l'un des chefs de la LRA qui s'est rendu en Centrafrique, doit arriver aujourd'hui sur Bangui. Une source gouvernementale précise qu'il doit être directement transféré dans la soirée vers La Haye, aux Pays-Bas où l'attendent les juges de la CPI. Il est accusé de crimes de guerre et crimes contre l'humanité.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
À l'issue de 2 premières journées de discussion à l'ONU à Genève, différentes factions libyennes sont parvenues à un accord sur un agenda en vue de former un gouvernement d'unité. Claire Morin-Gibou.
Sous l'égide de la MINUL, la Force des Nations Unies pour la Libye, une 20aine de représentants de divers groupes de la société libyenne, parlementaires, membres des municipalités et d'associations, se sont mis d'accord après d'intenses délibérations pour former un gouvernement d'unité consensuelle, selon un communiqué de l'ONU. Ils ont appelé à l'arrêt des combats pour, disent-ils, créer un environnement positif pour le dialogue et souhaitent le retrait des groupes armés de toutes les villes libyennes. Les participants demandent également la libération des prisonniers détenus illégalement, la réouverture des aéroports et la liberté de mouvement dans le pays. L'objectif de cette réunion est de tenter de sortir la Libye du chaos dans lequel elle s'est enfoncée depuis la chute de Muammar Kadhafi en octobre 2011. Mais selon certains experts, ces négociations ont peu de chances d'aboutir car les factions ayant le plus d'influence sur le terrain, comme Fajr Libya, l'aube de la Libye, n'ont pas été invitées. Les discussions devraient reprendre mardi à Genève.
Le président américain Barack Obama et le premier ministre britannique David Cameron se sont entretenus pour une 2e journée aujourd'hui à Washington sur des sujets tels que le terrorisme, Ebola, le rôle de la Russie en Ukraine et la cybersécurité. Après cette rencontre, les deux hommes ont donné une conférence de presse où ils ont réaffirmé leur engagement dans la lutte contre l'extrémisme. Barack Obama et David Cameron ont publié conjointement cette semaine dans le Times de Londres un article où ils ont offert un front uni face aux djihadistes. Et puis sport, football, cérémonie d'ouverture de la CAN 2015 aujourd'hui à Malabo. Malgré l'épidémie d'Ebola, la Confédération de football se dit très confiante concernant le dispositif mis en place en Guinée équatoriale. L'Amérique et vous, c'est maintenant et ça parle d'immigration. Je vous retrouve tout à l'heure.
of a dream.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Une Amérique qui est maintenant multiculturelle, multiforme.
One nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all.
Immigration, défis et perspectives, pour en parler, nous recevons dans cette édition de l'Amérique et vous, l'avocat Jérôme Ngando. Bienvenue à Washington.
L'Amérique et vous, Jean-Roger Billon.
La Chambre des représentants des États-Unis, dont la majorité est détenue par le Parti républicain, a approuvé un amendement empêchant l'application du plan annoncé le 20 novembre dernier par le président Obama et qui prévoit d'accorder des permis de travail de 3 ans à plusieurs millions de sans-papiers. Mais le test ne devrait pas suivre en l'état. Lionel Gaïma.
Pas de problème pour la majorité des députés républicains et démocrates quant au financement de ce ministère clé qui a vu le jour après les attentats terroristes du 11 septembre 2001 aux États-Unis. Le X est le genre d'amendement dont la proposition de loi a été assortie et telle qu'elle a été expliquée par le député républicain Bob Goodlatte. Cet amendement éliminera complètement les fonds pour cette prise inconstitutionnelle de pouvoir par le président Obama en vue de permettre à plus d'illégaux de travailler. On ne pense pas de toutes les façons que ce texte sera approuvé par le Sénat. Bien que maintenant sous contrôle républicain comme la Chambre basse, les adversaires du président n'ayant pas la majorité de deux tiers requise pour passer outre à un éventuel veto de M. Obama. Donc, les députés démocrates comme Mark Takano, les républicains jouent un dangereux jeu politicien. Nous avons vu ce qui vient d'arriver à nos amis en France. Et maintenant, les républicains vont jouer avec notre sécurité nationale et menace son financement. Ce que conteste le leader de la majorité à la Chambre, Kevin McCarthy. Selon lui, ce sont plutôt des démocrates qui mettent en péril la nation en privilégiant des décrets au détriment du processus législatif. Il s'agit ici de résister à cet assaut contre le gouvernement démocratique et de protéger la séparation constitutionnelle de pouvoir. Il n'y a qu'une question à se poser. Est-ce que nous affaiblissons notre constitution en permettant à l'exécutif de légiférer? Pas de compromission. Les leaders du Parti républicain reconnaissent la nécessité de réformer le système d'immigration aux États-Unis pour le bien de la nation, mais aussi pour le bien de leur propre parti, qui a vu une perte de soutien des Hispaniques au cours de la dernière décennie. Le député démocrate Luis Gutiérrez est convaincu que le vote d'hier, mercredi, à la Chambre basse, va encore faire prendre des voix aux républicains au sein des communautés d'immigrés. Votre action va seulement causer de l'indignation et la mobilisation d'une communauté d'immigrés à travers la nation et signer l'arrêt de mort de votre parti en tant qu'institution nationale. C'est ce que vous allez récolter aujourd'hui. À la différence du reste du gouvernement fédéral, le département de la sécurité intérieure n'est financé que jusqu'à la fin du mois prochain.
Environ 11 millions et demi de clandestins vivraient aux États-Unis selon les dernières statistiques. Le dernier programme de régularisation générale aux États-Unis date de 1986. Depuis, toutes les tentatives de grandes réformes des lois en matière d'immigration ont échoué. Le décret signé par Barack Obama fera-t-il exception? Quelles en sont les grandes lignes? Pour en parler, nous avons en ligne Jérôme Ngando. Il est avocat d'affaires et de l'immigration.
La réforme de l'immigration de président Obama, c'est pour la régularisation des sans-papiers qui sont aux États-Unis depuis plus de 5 ans et qui ont des enfants qui sont soit de nationalité américaine ou alors qui sont des résidents permanents.
Alors comment on en est arrivé à un décret? Parce que ce n'est pas de coutume aux États-Unis que le président agit seul.
On est arrivé à un décret parce que, comme vous savez, les États-Unis sont un pays fédéral qui a une assemblée bicamérale, c'est-à-dire qu'il y a deux chambres au niveau de l'assemblée. La question de l'immigration est une question qui relève du pouvoir fédéral. Et soit le Congrès agit, soit le président agit. Et vous vous souvenez que déjà en 2013, il y avait une réforme de l'immigration qui avait été passée par le Sénat. Malheureusement, lorsque le projet de loi a été transmis à la Chambre des représentants, il y a eu blocage. Depuis, le Sénat a approuvé la réforme sur l'immigration, le 27 juin 2013. Et normalement, la procédure aux États-Unis veut que la Chambre des représentants, à son tour, puisse voter la loi et que la loi puisse aller chez le président pour la promulgation. Et depuis que cette loi a été, le projet de loi a été renvoyé au niveau de la Chambre des représentants, elle est restée lettre morte, il n'y a pas eu d'action. Donc, le 20 novembre 2014, donc soit une année plus tard, le président a décidé, lui, comme ça, de prendre l'initiative pour faire avancer les choses.
Alors, pourquoi la loi est restée lettre morte, comme vous l'avez dit? Pourquoi?
Bon, la loi est restée lettre morte parce qu'au sein du Congrès américain, il y a des gens qui n'en veulent pas. C'est-à-dire que, notamment, l'aile du Parti républicain, ils ne veulent pas, ils considèrent ça comme une amnestie. Ils ne veulent pas que des gens qui vivent déjà ici aux États-Unis, qui ont passé pour beaucoup, pratiquement toute leur vie ici, et qui ont investi ici, qui ont de la famille ici, puissent être régularisés. Vous savez, le point qui achoppe dans ce projet de réforme, c'est la régularisation des sans-papiers. C'est de ça qu'ils n'en veulent pas.
Alors aujourd'hui, le président a pris la décision d'agir par décret. Est-ce que le décret s'applique immédiatement?
Non. Au moment où le président l'a annoncé au mois de novembre, ça ne s'était pas encore appliqué, donc il fallait attendre un suivi. À ma connaissance, il paraît qu'à partir du mois de février, de toute façon, d'ici la fin de cette année, l'immigration va commencer à recevoir des demandes par rapport à ce décret-là.
Beaucoup d'Africains sont concernés, puisqu'ils vivent aux États-Unis ici, et beaucoup sont sans papier. Quelles sont les étapes qu'il faut suivre dans ce parcours?
Ben, moi, je pense déjà qu'il faut remplir les conditions. Et comme je vous disais tantôt, l'une des principales conditions, c'est d'avoir vécu aux États-Unis pendant au moins 5 ans. D'avoir des enfants qui sont nés aux États-Unis ou qui sont des résidents permanents, d'avoir un casier judiciaire vierge, excusez-moi, c'est-à-dire ne pas avoir commis de crimes ou condamné pour des crimes, et pouvoir payer ses taxes et payer une amende, et puis vous pouvez être éligible par rapport à cette réforme-là. Vous n'obtenez pas la green card, il faut que les gens comprennent très bien, vous obtenez un permis de travail et le droit de rester aux États-Unis, de ne pas être déporté, et vous pouvez voyager et sortir et rentrer aux États-Unis comme vous voulez.
Alors, vous parlez d'une amende à payer. C'est quoi cette amende?
Bon, je pense quand même qu'il y aura une amende à payer, mais ce sera beaucoup plus des impôts qu'il faudra payer parce que la plupart des gens qui vont demander la régularisation sont restés aux États-Unis, ils ont travaillé et n'ont pas payé les impôts. Je ne suis pas très sûr comment le gouvernement pourra parvenir à calculer cette amende-là, mais il y aura, d'après ce qui a été annoncé, des amendes, des impôts à payer pour comme une des conditions pour pouvoir être régularisé.
Des problèmes juridiques vont surgir. Comment qui les individus devront contacter au juste pour ça?
Soit vous allez sur le site du gouvernement, uscis.gov, United States Citizenship and Immigration Services, soit vous contactez un avocat d'immigration pour déposer votre demande de régularisation. J'ai appris d'ailleurs que le gouvernement est en train de recruter déjà des milliers et des milliers d'agents pour pouvoir les aider parce qu'ils attendent un afflux massif des gens, parce qu'on parle quand même de plus de 4 millions de gens qui seront potentiellement régularisés. Donc il faudra soit le faire soi-même, soit aller chez un avocat d'immigration pour pouvoir soumettre une demande de régularisation.
Alors, l'une des choses qui hante souvent les sans-papiers, c'est la peur. Certains se posent la question de savoir s'ils ne vont pas être arrêtés lorsqu'ils vont aller déposer leurs papiers.
Non, justement, je ne pense pas, parce que justement, le problème, c'est de prévenir qu'ils soient arrêtés, qu'ils soient déportés. Donc, les demandes d'immigration se font généralement par... Ce n'est pas que vous allez partir dans un bureau pour déposer le dossier. Vous le faites sur Internet ou je vous envoie une application, une demande par courrier. Donc, mais je ne pense pas qu'ils pourront, les gens pourront s'arrêter parce que justement, ils seront en train de remplir ce qui leur a été demandé par un décret présidentiel. Je ne pense pas qu'il y aurait d'inquiétude. Comme je l'ai dit aussi, il y a une possibilité de le faire à travers un avocat d'immigration.
Alors, il y avait donc cette loi sur la table des députés avant le décret Obama. Est-ce que cette loi devient caduque? Est-ce qu'elle disparaît des archives?
Non, et cette loi est toujours là. Hein. J'ai appris que le Congrès, le monsieur John Bonner, qui est le représentant, qui est en quelque sorte le chef de file du Parti républicain à la Chambre des représentants, a décidé qu'il allait tout faire pour annuler cette loi. Et les membres du Parti républicain sont partis en ce qu'on appelle le Republican Retreat, c'est-à-dire qu'ils prennent un petit voyage ensemble où ils discutent, ils parlent de leur politique, et puis ils ont décidé d'ailleurs qu'ils allaient tout faire pour annuler la loi de président Obama. Et si jamais ils passent une loi pour annuler le décret présidentiel, vous savez, on est dans un système où au nom de la hiérarchie des pouvoirs, une loi passe avant un décret. Si le Congrès aujourd'hui sort une loi qui dit on annule le projet de réforme, le décret du président Obama dont on vient de parler n'aura plus de valeur. À moins que, bien sûr, lorsque le projet de loi est soumis au président, le président, vous savez, a un droit de veto pour pouvoir justement contrecarrer le projet de loi qui sera soumis à sa signature, parce qu'il faut qu'il puisse le promulguer. Donc là, on s'attend un peu à quelques difficultés entre républicains et démocrates. Mais pour le moment, la loi n'ayant pas été votée au niveau de la Chambre des représentants, c'est le décret du président qui passe. Mais si jamais il y a une loi qui sort, qui annule le décret, ou bien qui vient contrarier le décret, selon le principe de la hiérarchie des pouvoirs juridiques, c'est la loi qui va primer.
L'Amérique et vous, en direct de Washington.
Vous écoutez VOA Afrique. Nous recevons à cette émission M. Ngando, il est avocat. Nous discutons aujourd'hui de la réforme de l'immigration. M. Ngando, vous êtes toujours là? Alors, il n'y a pas d'accord bipartisan sur le sujet de l'immigration. Est-ce que les républicains qui sont aujourd'hui majoritaires dans les deux chambres du Congrès peuvent raisonnablement empêcher le décret du président Obama?
Je dirais que ça va être très difficile. Ça va être très difficile parce que techniquement, ils peuvent essayer de le faire. Mais comme je vous l'ai dit, il faut déjà qu'ils votent un projet de loi. Mais vous savez, dans la procédure... Ce projet de loi doit ensuite aller sur la table du président des États-Unis qui doit promulguer cette loi. Et le président, vous savez, a un droit de veto. C'est-à-dire que s'il dit non, il n'y a pas de loi. Et pour justement surpasser le droit de veto du président, il faut que la loi rentre au niveau du Congrès et que le Congrès, par deux tiers de sa majorité, puisse la revoter. Vous comprenez? Et les républicains n'ont pas deux tiers de majorité. Leur majorité s'est renforcée au niveau du Sénat récemment avec les dernières élections de novembre et ainsi qu'au niveau de la Chambre des représentants, mais ils n'ont pas deux tiers, à moins que, bien évidemment, qu'il y ait certains membres du Parti démocratique qui se rallient aux républicains qui s'opposent à la réforme de l'immigration. Et là, ça va être difficile. Donc, c'est possible qu'il y ait une tentative, mais juridiquement, avec le droit du veto de président, ça va être extrêmement difficile.
On nous fait savoir que les républicains peuvent contourner la mesure en prenant des mesures de rétorsion dans d'autres domaines, notamment bloquer, par exemple, l'avènement des ministres qui doivent prendre fonction dans le gouvernement, tels que pour le ministère de la Défense ou celui de la Justice, où les portefeuilles sont vides actuellement.
Oui, mais ça, je l'ai appris, mais c'est de la politique. Vous savez, ça, des choses comme ça ne devraient pas exister. On ne peut pas empêcher un gouvernement de fonctionner parce qu'il y a un décret qui ne vous plaît pas. Donc, moi, à ma connaissance, moi, je pense que ce projet de loi, cette réforme de l'immigration est très cher au président Obama. Comme vous savez, il est pratiquement en fin de mandat. C'est aussi un fils d'immigré. Et moi, je pense qu'il a vraiment intérêt, il souhaite vraiment, avant de partir, de faire quelque chose pour la population immigrée aux États-Unis. Et je suis sûr que, quelle que soit la menace, d'ailleurs, ils avaient menacé qu'ils allaient empêcher dans la loi de finances, qu'ils allaient mettre des restrictions pour empêcher le financement de la réforme d'immigration. Malheureusement, ils ne l'ont pas fait. Donc, bon, bien sûr, il y a des menaces. Il y a même d'ailleurs des actions qui ont été déjà menées en justice. Vous savez, il y a 25 attorneys general qui sont un peu des ministres de la justice de chaque État qui ont introduit une action judiciaire contre la réforme de l'immigration de président Obama. Et donc, évidemment, il y a des choses qu'on va essayer, mais je ne sais pas et je ne pense pas que ça réussira. Mais ce que je conseille à vos auditeurs qui sont concernés ou qui ont des parents très concernés, c'est de faire vite. Une fois qu'on ouvre la porte à la demande, il faut introduire le dossier le plus tôt possible, parce que si jamais il y a un acte de la Cour suprême ou bien une loi qui vient du Congrès qui dit que le décret est annulé, on ne pourra pas continuer à régulariser les gens. Donc je ne pense pas que ça va se passer, mais il serait prudent de ne pas trop attendre et d'introduire la demande de régularisation le plus tôt possible.
Alors, on pourrait aussi reprocher au président Obama de faire de la politique, puisqu'il a promis en début de mandat, lorsqu'il est venu au pouvoir, de régler cette question de l'immigration. Et bon, il n'a pas trouvé de consensus et il le fait de manière cavalière. On pourrait lui reprocher cela?
Non, je ne pense pas qu'il le fait de manière cavalière. Je pense qu'il a essayé. Bah, c'est vrai que certaines personnes lui reprochent pourquoi il n'a pas fait ce moment où il avait la majorité au Congrès, parce qu'au moment où il a pris le pouvoir, le Sénat et la Chambre des représentants étaient majoritairement démocrates. Donc, il a dû attendre un peu, je ne sais pas pourquoi. Cette réforme d'immigration a été introduite depuis 2013 et ça fait un an et demi, qu'il n'y a pas de suite au Congrès. Donc, lui, il a décidé comme ça d'intervenir. D'ailleurs, il n'est pas le seul président qui intervient pour agir sur l'immigration. Le père Bush, le président W. Walker, George Bush, en 90, avait fait pareil. Bon, il n'y a pas eu de remous. Bon, maintenant, le président Obama le fait. Et je ne vois pas pourquoi ça devrait déranger autant.
Alors, l'utilisation du droit de veto dans une démocratie, qu'est-ce que vont en penser les autres?
Quand vous dites les autres, vous faites allusion à qui?
À l'opposition au président Obama.
Le droit de veto, c'est un droit qui est constitutionnel, qui appartient au président. C'est-à-dire qu'il est là pour être utilisé lorsque c'est nécessaire. Donc, je ne sais pas s'il va l'utiliser, mais je pense qu'il l'utilisera si c'est nécessaire. Parce que, comme je vous l'ai dit, je pense que cette réforme de l'immigration lui tient à cœur. Un peu comme sa réforme sur la santé. C'est-à-dire que, comme on dit ici aux États-Unis, c'est legacy. Il veut partir avec en disant « M. Obama a régularisé la situation des immigrés ».
Alors,
en même temps, aussi, on ne peut pas reprocher au président Obama d'être assez très, 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 très souple, parce que lui aussi, au moment, pendant son mandat, il y a eu beaucoup de déportations. Mais s'il décide maintenant d'essayer de régulariser des gens pour que les familles ne se séparent pas, vous imaginez, mais quelqu'un qui vit aux États-Unis, qui a des enfants, qui est déporté comme ça, qui a des enfants mineurs qui vont à l'école, qui doit les abandonner ici, c'est très difficile. Et je pense que c'est ce que le président veut au moins essayer d'éviter.
Alors, vous êtes avocat et vous connaissez bien le sujet dans ces divisions juridiques. Où oui. peut-on trouver aujourd'hui toute la documentation nécessaire quand on veut être renseigné sur le sujet?
Je pense que déjà, il faut aller sur le site de l'immigration, uscis.gov, le site de l'immigration. Il y a déjà des... Si on appelle l'immigration, ou bien si on se renseigne auprès d'un avocat de l'immigration, on peut avoir toutes les informations dont on a besoin.
L'Amérique et vous, en direct de Washington.
Avec nous, Maître Jérôme Ngando, avocat, l'immigration aux États-Unis, quelle perspective? Vous vous souvenez que le président Obama avait lancé une initiative pour les jeunes qui étaient nés ici,
oui.
Le Obama Dreamer. Est-ce que vous pouvez nous en parler?
Ah oui, c'est le Dreamer, ça s'appelle aussi le DACA, Deferred Action for Childhood Arrival. Il y a eu une expansion d'ailleurs qui vient d'être passée parce que avant il fallait être arrivé aux États-Unis avant l'âge de 16 ans. Et pour ceux qui étaient arrivés avant juin 2012, il y a eu une expansion à partir de janvier 2010. Donc le nombre de gens qui pourront bénéficier de cette réforme-là va forcément s'étendre. Donc, si vous êtes aux États-Unis et que vous êtes arrivé aux États-Unis avant l'âge de 16 ans et que vous n'avez pas eu de problème judiciaire et que vous avez au moins l'équivalent d'un bac et que vous êtes inscrit à l'école ou que vous avez un diplôme d'une école américaine, vous pouvez demander un permis de travail et être régularisé, ne serait-ce que de manière temporaire. C'est à peu près l'essentiel de cette réforme-là.
Alors, il y a aussi nos auditeurs qui sont en Afrique et beaucoup de jeunes souhaiteraient venir aux États-Unis. Il y avait jusque-là la voie traditionnelle de la loterie division. Est-ce qu'elle tient encore?
Oui, la loterie n'a pas changé.
Je veux dire après le décret d'Obama.
Non, le décret d'Obama n'a pas touché à la loterie. C'est le projet de loi qui a été introduit au niveau du Congrès, comme je vous l'ai dit en 2013, qui parlait de faire partie de la loterie. Vous savez, dernièrement, il y a plein de gens qui ont joué à la loterie. La loterie n'a pas changé. Le décret d'Obama ne parle que des gens qui vivent aux États-Unis depuis 5 ans et qui ont des enfants ici. Et ce décret du président Obama aussi régularise, permet la facilitation des visas pour des étrangers qui ont fait des études dans des domaines scientifiques et techniques, qui sont aux États-Unis et qui seraient intéressés à travailler pour des compagnies américaines. Parce que vous voyez, le président Obama, il a dit dans son discours que lorsque les gens viennent faire des universités aux États-Unis et qu'ils obtiennent des diplômes scientifiques et techniques, il y a des compagnies américaines qui aimeraient bien les garder. On ne peut pas les former chez nous pour qu'ils aillent travailler pour nos rivaux et qu'ils deviennent nos rivaux. Donc, il faut qu'on accorde une préférence à une compagnie américaine telle que la vôtre, qui veut bien garder un technicien du MIT, au lieu qu'il aille travailler en Chine parce qu'on n'a pas pu lui donner un visa. À mon avis, ça fait un très bon sens. Donc, le décret parle aussi de ces gens-là, aussi bien que la loi qui est bloquée au niveau de la Chambre des représentants. Mais le décret de président Obama, qui est, à mon avis, le seul élément juridique qui est en vigueur aujourd'hui, puisque la loi n'a pas abouti, ne parle pas de la loterie. Pour qu'elle supprime la loterie, il faut qu'il y ait un décret qui dans le décret, qu'il y ait des dispositions qui disent que la loterie a été supprimée. Mais ce n'est pas le cas.
Alors, on reste toujours avec ceux qui sont en dehors de l'Afrique et qui n'ont pas gagné à la loterie, mais qui estiment qu'ils veulent venir aux États-Unis. Y a-t-il d'autres voies pour eux?
C'est les voies traditionnelles, c'est de visa. Bon, quand s'il veut venir, déjà, ça dépend de s'il veut venir pour rester permanemment ou bien s'il veut venir pour de manière temporaire en tant que visiteur. Donc, ils peuvent toujours faire une demande de visa. Bon, il y a toujours les mêmes voies qu'on connaissait avant, comme le visa employeur, qu'on appelle le H-1B, c'est-à-dire il faut déjà trouver au niveau des États-Unis un employeur qui soit prêt à vous sponsoriser. Ou alors par le mariage, un conjoint, une conjointe américaine. La loterie, comme je l'ai dit, existe toujours. Il y a d'autres visas spécialisés, par exemple, pour les infirmières, pour des ingénieurs, pour des gens qui travaillent pour des sociétés multinationales. C'est-à-dire que si vous avez une compagnie en Afrique qui a des bureaux aux États-Unis, vous pouvez très bien, si votre employeur le souhaite, venir travailler aux États-Unis dans le cadre d'un visa qu'on appelle le visa L. Il y a des possibilités, il y en a. Mais une fois que cette loi passe, je pense qu'il y en aura plus.
Alors la loi va couvrir seulement 5 millions de personnes. Qu'est-ce qu'il adviendra du reste sur les 11 millions d'immigrés clandestins qui vivent aux États-Unis?
Ah d'accord, je pense que vous faites allusion au décret présidentiel.
Oui.
Il y a la loi, la loi qui n'est pas passée, le projet de loi et le décret présidentiel. Bon, mais le décret présidentiel couvre à peu près 5 millions de gens, comme vous avez très bien raison, mais ce qu'il va advenir du reste, ils vont rester dans la situation dans laquelle ils sont, en espérant qu'il y aura d'autres lois, d'autres réformes ou bien d'autres décrets présidentiels qui pourront les régulariser.
C'est une situation qui sera dommageable.
Oui, voilà. Mais déjà, c'est pour ça que les gens disent au moins il y a un effort. 5 millions de gens, c'est pas ce que tout le monde souhaite. Si jamais le projet de loi, par contre, passe, lui, par contre, il va concerner 11 millions de personnes. Donc, il y a 6 millions de plus qui pourront en bénéficier.
Est-ce qu'aujourd'hui encore, les jeunes ont le droit de rêver à l'Amérique? Est-ce que l'Amérique, le rêve américain peut se réaliser avec toutes ces oppositions à l'immigration, ces débats sur l'immigration? Est-ce que les jeunes, de par le monde entier, ont le droit de rêver encore à l'Amérique?
Bien sûr, l'Amérique est un pays qui a apporté à beaucoup de gens et continue d'ailleurs à le faire. C'est un pays qui a ses problèmes. Il y a des problèmes politiques, il y a des problèmes sociaux. Mais vous savez, chaque pays a ses problèmes. Vous voyez ce qui s'est passé en France récemment. Et donc, je pense à mon avis que l'Amérique, contrairement à beaucoup de pays occidentaux que j'ai pu, moi, eu la chance de visiter, offre des opportunités, surtout aux étrangers qui sont assez rares dans d'autres pays. Il faut toujours le rêver, c'est plus comme avant. Peut-être que ce ne sera plus jamais comme avant, mais c'est toujours beaucoup mieux qu'ailleurs.
Voilà, c'était Jérôme Ngando, avocat, invité de l'Amérique et vous, pour cette édition consacrée à l'immigration aux États-Unis. Merci d'avoir été avec nous, Jean-Roger Billon, pour vous servir. Cette émission a été réalisée par Michel Joseph. Vous retrouverez en studio la semaine prochaine Timothée Donangbaï pour la version interactive de l'Amérique et vous. Bonsoir.